Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Tour et vous écoutez Revolution 909, l'émission qui raconte l'histoire de la musique électronique. Le mois dernier, j'avais parlé de tout début de notre sujet avec les premiers instruments électriques, puis électroniques. Et j'avais aussi parlé de courants artistiques et musicaux comme le bruitisme, la musique sérielle, le dodécaphonisme, le minimalisme, enfin tous ces courants qui ont accompagné l'apparition des premières expériences sonores électroniques. Au programme aujourd'hui, comment se passe l'intégration de l'électronique dans la musique populaire ? On va se concentrer essentiellement sur les années 60 et 70 pour comprendre par exemple comment les musiques d'accompagnement, le rock ou le jazz ont pu intégrer les machines électroniques, notamment en Allemagne avec le krautrock. Et on va aussi parler d'une musique d'accompagnement qui va apparaître au milieu des années 70, la musique ambiante. On s'était laissé, rappelez-vous, très globalement sur les années 60, au moment où les machines électroniques commencent à être utilisées dans la musique populaire. Les 60s, c'est une décennie très fournie en matière de popularisation de la musique électronique. C'est le moment où les studios d'enregistrement s'équipent avec de nouveaux équipements qui peuvent à la fois aider l'enregistrement, le mixage, mais aussi apporter des effets et des sons à la musique. Cette période porte donc un renouvellement technique, mais aussi créatif, car après les Beach Boys et les Beatles à la fin des années 60, le studio devient un véritable terrain de jeu pour les musiciens les plus attachés au travail sonore. Du coup, dans ces années 60, les premiers synthétiseurs commerciaux, comme le Buchla ou le Moog, permettent à la synthèse sonore de s'inviter dans les studios. Faut bien comprendre qu'à l'époque, il est difficile pour un musicien seul d'acquérir des machines comme ça. Et les groupes les plus intéressés finissent par emporter les premiers synthétiseurs portatifs sur scène, après le studio. Le synthétiseur est tantôt utilisé comme un soutien discret aux restes des instruments, tantôt comme un instrument permettant de nouvelles sonorités, et qui permet à l'électronique de commencer à avoir ses propres codes dans la musique populaire. Des codes pour la plupart inspirés des pionniers de la musique savante qu'on a vu le mois dernier. Puis, dans les années 70, il y a principalement trois synthétiseurs qui vont être le fil rouge entre de nombreux styles qu'on va aborder aujourd'hui. Coup sur coup, en 1970 sort le Mini Moog, le premier synthé portatif, puis le VSC3, vendu par la société britannique IMS, et en 71 et 72, les Harp 2600 et Harp Odyssey des Américains Harp.
Thank you.
On vient d'entendre Popcorn, une petite mélodie composée en 1969 par Gershon Kingsley et ici interprétée au Moog par le groupe Hot Butter en 1972. Elle est connue pour avoir fait l'objet de nombreuses reprises et pour être l'un des premiers thèmes électroniques connus mondialement. Rappelez-vous, on s'était quitté sur les années 60 avec Wendy Carlos qui reprenait du Bach sur un synthétiseur Moog. Son album Switched on Bach, sorti en 1968, où elle joue du Bach avec un Moog, fut le premier véritable succès en son genre. Mais elle n'est pas la seule à ouvrir les portes des laboratoires sonores au grand public. En effet, les années 60 et 70 voient de nombreux compositeurs de musique populaire ou de jazz s'approprier les premiers synthétiseurs et autres bidules électroniques. Switched on Bach est suivi quelques années après par Electric Samurai, Switched on Rock, un album d'un pionnier japonais des synthétiseurs, Isao Tomita. Mais plus largement, de la même manière que Delia Derbyshire au BBC Radiophonic Workshop avec le générique de Doctor Who, des musiciens vont avoir tendance à la fois à incorporer l'électronique dans la musique acoustique ou orchestrale, mais aussi à créer des jingles. Radio, télévision et cinéma requièrent de la musique d'illustration, de la stock music, mais aussi un habillage sonore et des jingles. C'est dans cet environnement que des gens comme Raymond Scott, Roger Roger, Bruce Hack, Jean-Jacques Perret ou encore François de Roubaix produisent en quelques années des tonnes et des tonnes de jingles et de musique d'accompagnement aux accents pop et jazz. Ces identités sonores, entendues sans être écoutées car diffusées dans le cadre d'émissions, restent toutefois dans l'inconscient d'un grand public parfois nostalgique aujourd'hui. On vient d'écouter The Little Ships de Jean-Jacques Perret, un morceau qui est sorti sur un album compilation de 1968. On n'a pas fini de parler de Delia Derbyshire. Après ses premiers travaux au début des années 60, elle s'associe en 1966 à Brian Hodgson et Peter Zinoviev dans Unit Delta Plus, un collectif de musique électronique expérimentale basé non pas dans le BBC Radiophonic Workshop, mais dans le studio de Zinoviev situé dans son jardin. Zinoviev n'est pas n'importe qui, car c'est dans ce studio qu'il va concevoir le premier synthétiseur britannique, le fameux VCS3. Commercialisé à partir de 1969 par la société IMS, dont fait partie Zinoviev, le VCS3 sera utilisé par de nombreux musiciens dont on va parler aujourd'hui. Pink Floyd, The Who, Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre ou encore Brian Eno. Malgré Unit Delta Plus, Zinoviev n'est pas intéressé par la musique pop. En 68, le musicien David Vorhaus va donc prendre les deux membres restants du groupe pour former White Noise, qui sortira l'album The Electric Storm, faisant la part belle aux effets électroniques et aux manipulations de bandes. Cet album peut être classé rock progressif, mais bon, j'ai choisi de le mettre dans la petite intro sur la musique savante et orchestrale au début de l'émission pour le raccorder à Delia Derbyshire. Et puis ça souligne un point important. La transition de musique savante à musique populaire pour les machines électroniques se fait essentiellement dans le monde anglo-saxon, et donc par le rock. C'était Your Hidden Dreams, The White Noise, le groupe de Delia Derbyshire, entre autres. Alors, concernant le rock, le travail de studio attire de nombreux musiciens. L'anglais Joe Meek enregistre dès 1959 son album I Hear a New World, un formidable ovni qui mélange musique populaire américaine, de nombreux effets comme de l'écho, du délai ou encore des modifications de la hauteur de la voix. Mais c'est surtout vers la fin des années 60, et avec la multiplication des synthétiseurs commerciaux, que le rock va intégrer l'électronique dans sa palette sonore. Parce que c'est aussi l'époque d'un renouveau du genre. Beach Boys et Beatles donnent à entendre un travail de studio jamais vu encore à l'époque, aidé par de nouvelles machines. Alors que le groupe américain utilise le theremin sur leur album Pet Sounds en 1966, les Beatles rendent célèbre le mellotron, l'un des premiers sampleurs, avec l'intro de Strawberry Fields Forever en 1967. Puis, au fur et à mesure des albums, ceux-ci explorent les nouvelles techniques électroniques de studio. John Lennon et Yoko Ono réalisent un collage de bandes magnétiques sur le titre Revolution 9 en 1968. Et George Harrison utilise un Moog en soutien aux guitares acoustiques de Here Comes the Sun en 1969. Les sons et les effets électroniques, qui donnent des choses jamais entendues auparavant, vont s'intégrer assez naturellement dans le courant psychédélique en lien avec le mouvement hippie. Il est centré sur la recherche de l'ouverture des consciences et dans la retranscription sonore des effets de la prise de LSD. Rien de mieux que des sons de synthé et des effets de délai ou d'écho pour évoquer cet éveil des sens. Dès 1966, les Beatles, encore eux, jouent avec des bandes magnétiques renversées sur Tomorrow Never Knows, sans doute l'un des premiers morceaux rock considérés comme psychédéliques. Vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 FM et vous venez d'écouter Tomorrow Never Knows des Beatles. De nombreux autres groupes comme Silver Apples, United States of America ou Gong ont s'attaché à mettre vraiment au centre de leurs morceaux les machines électroniques, notamment les effets qui peuvent être appliqués sur des enregistrements ou en direct. Néanmoins, c'est dans la décennie 70 que l'électronique va participer au succès de groupes de rock culte, en ayant divers rôles. L'album Who's Next, des Who, sorti en 1971, est resté célèbre notamment pour l'utilisation très rythmique des boucles de synthétiseurs du claviériste Pete Townshend. On l'entend bien sur le premier morceau de l'album, Baba O'Reilly. Sur la planète rock psyché, plusieurs groupes vont peu à peu faire évoluer leur musique, en faisant durer plus longtemps leurs morceaux, avec des solos à rallonge, des sons électroniques et un côté expérimental. Le rock progressif apparaît et emporte avec lui les synthétiseurs pour créer un genre différent, dans lequel le synthé devient un instrument à part entière, délaissant son côté un peu bizarre, original qu'il a pu avoir auparavant. Alors, on peut citer pas mal de groupes dans cette veine, comme Yes, King Crimson ou encore Genesis. Mais l'exemple parfait de transition entre rock psyché et rock progressif est sans nul doute Pink Floyd. Le groupe londonien, qui avait commencé par produire de la musique psychédélique, prend plus de liberté dans la structure des morceaux, dans les sonorités. Ils évoquent des univers plus planants et cosmiques, dans la veine du space rock de Hawkwind, avec leurs albums Uma Guma, Atom Earth Mother et surtout Dark Side of the Moon en 1973. Le fameux album avec la lumière passant dans un prisme est un condensé de textures électroniques, d'échantillonnages qui sont réellement inédits. On peut citer la fameuse introduction de Money avec les bruitages de caisses enregistreuses. Ou encore On the Run, un morceau basé sur une boucle de synthétiseur évolutive qui embarque l'auditeur dans un voyage intérieur. vient d'écouter On The Run des Pink Floyd, l'un des morceaux de Dark Side of the Moon. Même si ce ne sont pas les premiers à utiliser chaque technique séparément, l'histoire retient que les Pink Floyd comptent parmi ceux qui ont popularisé leur utilisation du son électronique, qui l'ont installé dans le paysage musical pop moderne, avec 40 millions d'exemplaires de Dark Side of the Moon vendus à travers le monde. Les années 70, c'est aussi la période d'une autre petite révolution dans la musique, l'ambient. La musique ambiante, c'est une musique qui souligne ou qui crée une atmosphère. C'est ce genre de morceau sans rythme, avec des très très longues notes qui s'étirent dans le temps. Pour retracer la création de la musique ambiante, du concept même, il faut d'abord remonter au début du XXe siècle. Le compositeur français Eric Satie, vers la fin de la Première Guerre mondiale, compose plusieurs pièces qu'il qualifie de musique d'ameublement, une musique de fond qui reste destinée à être jouée en direct, mais qui, selon ses mots, ne doit pas s'imposer, doit s'ajouter au reste de l'atmosphère sonore du lieu. Tout le concept est déjà là, dès la fin des années 10. Pourtant, il faut attendre les années 1960 et 1970 pour que ces pièces soient découvertes et que l'on puisse légitimement déclarer Eric Satie le créateur de la musique ambiante. Entre-temps, John Cage crée en 1952 la pièce 4 minutes 33, dont voici en exclusivité un extrait. Et oui, cette pièce, la plus célèbre du compositeur, est en effet composée d'un long silence de 4 minutes 33. Le but ? Porter son attention sur l'environnement sonore, sur tous les bruits non musicaux, qui, au bout de quelques secondes de silence, emplissent l'espace. Puis, quelques années plus tard, le courant minimaliste dont on a déjà parlé, avec Terry Riley, Lamonte Young, Steve Reich et compagnie, poursuit l'idée de l'économie des sons et de leur répétitivité, tout en restant dans l'harmonie, loin du bruitisme. Dans les années 60, les expérimentations sonores vont bon train, produisent déjà de la musique ambiante sans pouvoir mettre un nom dessus, doublé des pionniers du field recording, comme Earth Tabing, qui sort plusieurs albums de sons naturels avec comme nom Environments. Même au début des années 70, des groupes comme Tangerine Dream, dont on va parler aujourd'hui, font de la musique relativement longue et éthérée, mais elle adoptera des noms différents, musique planante ou musique cosmique. Non, pour savoir comment le terme ambient a été inventé et comment il a défini un genre, il faut suivre le parcours d'un artiste, Brian Eno. Brian Eno est un musicien britannique né en 1948 dans le Suffolk. Il suit des études de peinture et de musique contemporaine, et joue dans quelques formations avant de rejoindre en 1971 le groupe Roxy Music, qui fait du glam rock, une frange un peu extravagante du rock progressif, pour aller vite. Au début simplement au mixage, Eno se met à faire de plus en plus de choses dans le groupe, si bien qu'après deux albums, il quitte la formation, pour cause de désaccords artistiques avec le chanteur. Après cet épisode, Eno commence une carrière solo, où il développe véritablement le concept de musique d'ambiance. Dès l'année précédente, il collabore avec le chanteur de King Crimson sur un album inspiré du style de Terry Riley, le minimaliste. Après un album rock à grand succès en 1973, Eno travaille avec l'orchestre étudiant Portsmouth Sinfonia. Un jour, dans sa chambre, il joue un disque de harpe que sa copine lui a apporté. Problème, le son n'est pas assez fort, et l'un des deux côtés de la stéréo ne fonctionne même pas. Mais Eno est tellement épuisé qu'il ne se lève même pas pour écouter de façon normale la musique. À la place, il va être frappé par son expérience d'écoute. La musique, à très bas volume, est tellement calme que ses oreilles, qui veulent percevoir le son musical, finissent par lui faire écouter tous les sons environnants, l'atmosphère, avec le même niveau d'attention que pour écouter de la musique. Cette expérience anodine le marquera à vie. Il la ressent réellement comme une nouvelle manière d'écouter de la musique. C'est ainsi qu'il conçoit la musique ambiante. Une coloration globale de l'environnement sonore. Une musique qui doit pouvoir s'écouter à différents volumes, sans qu'il n'y en ait un plus adapté qu'un autre. Elle doit être à la fois discrète et intéressante. Dès la fin de 1975, il sort Discreet Music. Puis commence en 1978 la série très célèbre des Ambient, avec Music for Airports, une composition qu'il a imaginée comme pouvant s'accorder avec l'atmosphère d'un aéroport. Dans cet album qui va le faire connaître, on entend le pianiste du groupe de jazz fusion Soft Machine, et Eno s'est aussi entouré du célèbre ingénieur du son allemand Conny Planck, dont on va reparler. Détendez-vous, c'est le moment méditation. Vous êtes bien sur Radio Campus Tour, 99.5 FM. Vous écoutez Revolution 909, votre émission sur l'histoire de la musique électronique. On vient d'entendre Music for Airports de Brian Eno, l'un des pionniers de la musique ambiante. D'ailleurs, musique ambiante, en tant qu'on y pense, la musique de fond, ça existait déjà. On a bien parlé de la musique d'illustration. Ce type de musique soit utilisé dans des productions radio, télé, ou soit qui est vendu au kilomètre comme musique d'ascenseur. C'est un habillage sonore, en somme. Oui, mais, contrairement à la musique millimétrée, standardisée, l'ambiance d'Eno et de ceux qui vont développer le genre est une musique faite pour réfléchir, pour penser. On retrouve une véritable démarche artistique. Son travail poursuit le projet minimaliste. Et le concept d'ambiance influence aujourd'hui l'industrie musicale entière, notamment dans le domaine de la musique de film ou pour les jeux vidéo. En parallèle, Brian Eno réalise et participe à de nombreux albums à partir de la fin des années 70, entre autres la trilogie berlinoise de David Bowie, trois albums conçus en France et surtout à Berlin, et quelques albums du groupe de rock américain Talking Heads. Partons faire un tour du côté du jazz maintenant. Dans un premier temps, l'électronique est incrémentée dans le jazz de façon très expérimentale. Le musicien Sonra, durant les années 60, utilise les premiers Moog et les effets de tape delay dans une musique un peu space, c'est le cas de le dire. Puisque Sonra était un musicien qui, par l'intermédiaire de ses compositions et ses concerts, montrait au public une certaine philosophie cosmique. Vous allez écouter par vous-même. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que le morceau qui va suivre, qui provient de l'album Cosmic Tones for Mental Therapy, a été enregistré en 1963, soit 4 ou 5 ans avant les premiers morceaux rock psychédéliques. Adventure Equation de Sonra. Sonra n'est pas le seul jazzman à aimer ce genre d'expérience. En témoigne vers la même période les enregistrements de George Russell, où les musiciens sont accompagnés de sons de bandes magnétiques à l'envers. Sinon, comme pour le rock des Beatles, les possibilités des studios inspirent en 68 la superstar du jazz, le trompettiste Miles Davis, qui sort In a Silent Way et Bitches Brew en 1969 et 70. Bon, Miles Davis n'en est pas à utiliser ouvertement du synthétiseur, mais ce qu'il fait à la fin des années 60, c'est électriser le jazz. Les nouvelles possibilités d'effets, de pédales wah-wah, de spatialisation, s'accompagnent d'une ouverture du jazz à de multiples influences, qui continue avec ses albums suivants du début des années 70. Miles Davis s'inspire du funk, qui arrivait à cette époque, mais surtout, il donne naissance indirectement à un nouveau genre, le jazz fusion, ou jazz rock. Indirectement parce que ce sont en grande partie les musiciens qui l'accompagnent sur les albums Silent Way et Bitches Brew qui vont réellement faire vivre la rencontre du jazz, du rock et du funk. Pêle-mêle, on trouve le guitariste John McLaughlin, les claviéristes Chick Corea, Herbie Hancock, Joe Zawinul ou encore le saxophoniste Wayne Shorter. Le melting pot du jazz fusion se crée en parallèle du rock progressif qui a un peu la même démarche relativement expérimentale. D'ailleurs, pas mal de groupes comme Soft Machine peuvent être à la fois classés en rock psyché progressif mais aussi en jazz fusion. Herbie Hancock commence dès 72 à sortir des albums comme Crossings, Headhunters ou Thrust, explorant différents univers centrés sur le jazz et le funk, en utilisant l'électronique. Hancock est en effet l'un des premiers musiciens de jazz fusion à intégrer du synthétiseur dans ses compositions, comme un Harp Odyssey ou un Harp 2600 dans l'album Headhunters en 1973. Out. Vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 FM et vous écoutez Revolution 909, votre émission sur l'histoire de la musique électronique. On vient donc d'écouter Chameleon de Herbie Hancock, sorti sur l'album Headhunters en 1973. À part Herbie Hancock, Joe Zawinul et Wayne Shorter, deux autres anciens des albums de Miles Davis, participent eux de la popularisation du jazz fusion auprès du grand public avec leur groupe Weather Report et l'album Heavy Weather en 1977. C'est d'ailleurs à partir de cette époque, puis durant les années 80, que le jazz fusion est vu négativement, synonyme d'un manque d'inventivité et d'une popularité qui finit par le transformer en easy listening, en musique trop commerciale, trop lisse. Bon, fini de parler des anglo-saxons. Tournons-nous maintenant vers l'Europe continentale. Nos voisins ouest-allemands ont eu leur part de succès de la fin des années 60 aux années 70, grâce à la créativité de leur propre groupe de rock progressif. Une créativité stimulée à la fois par l'influence des arts plastiques, des compositeurs de musique électronique savante, mais aussi dans leur volonté de faire un lien entre l'avant-garde et la musique pop. On peut citer les groupes Can, Faust ou encore Neu, qui comptent parmi les grandes figures du krautrock, rock choucroute comme les appellent de façon légèrement condescendante les critiques anglais. Mais ce sont d'autres groupes qui laisseront la plus grande empreinte sur la musique électronique. On parle bien sûr de Tangerine Dream ou encore Kraftwerk, des formations qui sont issues de la scène krautrock, partagent des références communes, mais qui ne peuvent pas être purement reléguées à celle-ci. Commençons par Tangerine Dream. Tangerine Dream est un groupe fondé en 1967 par Edgar Froese, qui en sera le seul membre permanent. Après quelques sorties très influencées par le rock et l'utilisation d'instruments acoustiques, l'album Phaedra, qui sort en 1974, inaugure la période la plus innovante pour Tangerine Dream, celle d'albums instrumentaux qui enchaînent les nappes électroniques dans un style à la fois minimaliste et planant, qui se poursuivra avec Rubicon en 1975 et Stratosphere en 1976. le mot est lancé. La fin des années 70 voit en effet émerger toute une série de maniaques du synthétiseur, inspirés par le compositeur Karlheinz Stockhausen, qui s'emploie à créer de la musique planante, ou kosmische Musik. Au sein même de Tangerine Dream, à ses tout débuts dans les années 60, le musicien Klaus Schulze poursuit une grande carrière solo à partir des années 70. Il sort notamment Time Wind en 1975, une odyssée électronique d'une heure pour deux morceaux, jouée en une seule fois dans le studio où il enregistre. L'album représente l'apogée de sa première partie de carrière, et aide à définir la space music comme un certain pan du courant New Age, avec notamment sa pochette inspirée de l'univers visuel de Salvador Dali, qui reprend les effets de perspective et la représentation de paysages, qu'on peut retrouver dans son tableau avec la montre molle par exemple. Klaus Schulze est rejoint dans ce courant l'année d'après par le grec Vangelis, futur très grand compositeur de musique de film avec son album Albedo 0.39, mais aussi par un français, en la personne de Jean-Michel Jarre. Celui-ci est le fils d'un compositeur de musique de film, Maurice Jarre. Durant ses études, il rencontre Stockhausen, comme Klaus Schulze, et collabore au groupe de recherche musicale, ou GRM, de Pierre Schaeffer. Après une première partie de carrière plutôt discrète, Jarre sort le premier album concept de ce qui deviendra une série, Oxygène. Le succès est immense et le place presque immédiatement parmi les grandes figures françaises de la musique électronique, avec une carrière internationale fulgurante depuis. Voilà, on vient d'écouter la partie 4 d'Oxygène, l'un des morceaux, si ce n'est le morceau le plus connu de Jean-Michel Jarre, qui l'a fait connaître dans le monde. Jean-Michel Jarre, effectivement, est très adulé en France et à l'international, notamment pour ses énormes concerts de la fin des années 70 aux années 90. Mais son point fort au niveau musical est d'avoir inspiré nombre de musiciens par la suite, notamment en France, grâce à ses albums planants comme Oxygène, dont on vient de parler, ou Equinox. À ce stade, on peut isoler les récurrences de la musique planante. Ce sont des morceaux relativement longs, avec généralement un bourdon de quelques notes en boucle, des nappes évolutives, quelques effets de bruit blanc en stéréo, ça Jean-Michel il adore, et parfois une mélodie, appuyée par un enchaînement d'accords comme dans l'extrait que l'on vient d'écouter. La partie 4 d'Oxygène est effectivement la plus connue parce qu'elle est rythmée, mais tout l'album est très intéressant à entendre dans sa façon d'agencer et de proposer des dizaines de sons de synthé, doublés d'un sens de la mélodie et de la progression harmonique plutôt aiguisée. On peut même déjà y entendre les origines des grandes nappes synthétiques de la trance music de la fin des années 90. Bon alors ça c'est pour la cosmische musique, mais le krautrock, dans ses variations les plus électroniques, n'a pas que donné de la musique planante. Partons à l'ouest de l'Allemagne. En 68, deux étudiants du conservatoire de Düsseldorf, Florian Schneider-Esleben et Ralf Hütter, deviennent amis après s'être rencontrés dans une classe d'improvisation. Florian Schneider joue de la flûte et du violon, Ralf est claviériste. Tous les deux partagent un goût pour la musique électronique et expérimentale, si bien qu'ils créent l'année suivante le groupe Organization, assisté de plusieurs autres musiciens. Le groupe sort un unique album, Town Float, au Royaume-Uni, sans grand succès. Pour le coup, Town Float ressemble un peu aux autres albums krautrock sans électronique. Un mélange de rock psyché, de jazz, de rythmes exotiques et de petites touches expérimentales. Après ce premier essai, Schneider et Hütter amorcent un virage et décident en 1970 de changer le nom du groupe en Kraftwerk. Et oui, cet enregistrement de concert date de 1970, 15 ans avant l'invention de la techno. L'archive qu'on vient d'entendre est très précieuse puisqu'elle est captée sans doute avant le premier album. Il y avait encore le batteur de Organization. Petite anecdote, cette archive est en fait une diffusion télé, et on peut voir dessus Ralf Hütter s'amuser sur un tubone amplifié et bardé d'effets. Le tubone, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un synthétiseur en forme de tube qui fonctionne sur batterie, donc on fait pour la scène, et qui se joue comme une guitare. C'est un peu le précurseur du guitare. D'après la légende, Paul McCartney a failli l'utiliser pour l'intro de Strawberry Fields, mais heureusement, le mélotron s'est imposé, on l'a entendu. Effectivement, le tubone n'a pas les sons de flûte relativement harmonieux du mélotron, possède juste des sons de synthétiseur relativement basiques, mais qui tentent d'imiter quelques instruments, majoritairement des instruments graves. Ce qui est assez fou, c'est qu'on reconnaît presque une basse d'acid house sur l'enregistrement, qui passe d'une octave à une autre. On peut ajouter à ça le rythme très simple. Le batteur semble avoir décidé dans un moment de grâce de jouer uniquement de la grosse caisse et de la cymbale en contre-temps pendant quelques minutes. C'est vraiment de la techno avant l'heure. Entre 70 et 73, le groupe sort trois albums. Kraftwerk Ein, Kraftwerk Zwein, puis Florian und Ralf. Le morceau joué dans l'enregistrement est une version improvisée de Vom Himmel Hoch, ce qui deviendra le dernier titre du premier album. Ces trois sorties, même si elles ne sont pas très connues, permettent de tracer l'évolution sonore du groupe, allant de plus en plus vers l'électronique, tout en conservant une rythmique très rock et pop. C'est à cette période que le duo commence à bidouiller des synthés et d'autres machines. Le deuxième album est ainsi le premier à être entièrement rythmé de manière électronique. Mais le début du succès arrive en 74, avec la sortie de leur quatrième opus, Autobahn. Le disque fait un carton jusqu'aux États-Unis, où la tournée du groupe fixe définitivement la forme quartet. Hütter et Schneider, les fondateurs, sont rejoints par Wolfgang Flür et Karl Bartos, deux percussionnistes.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Campus Tours, 99.5 FM, et vous écoutez Revolution 909, votre émission sur l'histoire de la musique électronique. Alors, on vient d'entendre Autobahn de Kraftwerk, le plus long morceau de l'album éponyme. Le succès de cet album, dès 1974, souligne la stabilisation du genre musical de Kraftwerk, qui n'utilise quasiment plus d'instruments acoustiques, seulement de la guitare et de la flûte ici. Et il se met aussi à utiliser du vocodeur. Cette autonomie créative souligne la fin de la collaboration de Connie Plank avec le groupe après Autobahn. Connie Plank, souvenez-vous, dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à Brian Eno, a aidé nombre de groupes de krautrock et leur a donné sa touche personnelle d'expérimentation et d'électronique. On l'aura deviné, à Autobahn, c'est l'équivalent allemand pour autoroute. Désormais installé dans son propre studio, baptisé Kling Klang, le groupe s'est amusé à mettre des sons de démarrage de moteur et d'imiter les klaxons qui passent. Le morceau, dans son ensemble, est une grande ballade électronique qui retranscrit les virées en voiture sur les autoroutes allemandes avec la petite touche 70s de la flûte. Si je parle tant de Kraftwerk, c'est surtout pour leur vision de la musique et leur univers qui se dévoile à partir d'Autobahn. Kraftwerk, déjà, ça veut dire centrale électrique. En effet, les membres sont allemands et viennent de l'ouest, proche de la région industrielle de la Ruhr. Leur musique est influencée par l'environnement urbain et industriel de leur région et centrée sur les innovations techniques qui est retranscrite au niveau sonore par l'utilisation des instruments électroniques, les bourdons de basse et par une rythmique implacable. Cela retranscrit le bourdon du moteur et la répétition de la mécanique, des roues sur l'asphalte de l'autoroute. En 1975, Ralf Hütter exprime la vision de Kraftwerk dans le magazine Cream. Nous créons à partir de la langue allemande, notre langue maternelle qui est très mécanique. Nous utilisons cela comme base de notre musique. Après la guerre, l'industrie du spectacle en Allemagne était détruite. Le peuple allemand s'est vu dépossédé de sa culture au profit de la culture américaine. Je pense que nous sommes la première génération née après la guerre à renverser tout ça, à savoir où ressentir la musique américaine et où nous ressentir nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nier le fait que nous sommes allemands. Avec Autobahn et les albums suivants, Kraftwerk souhaite développer une sorte de néo-folk industriel. Le paradoxe qu'il cultive est celui d'une angoisse perpétuelle entre l'aliénation de l'homme, symbolisée par leurs robots sur scène, ainsi que leurs paroles simplistes et répétées, et la fascination de la société technologique et de consommation d'après-guerre. En effet, Autobahn est loin d'apporter un sentiment négatif. Il est plutôt enthousiaste face à la liberté qu'offre l'automobile, les nouvelles sensations qu'offre la mécanique. C'est peut-être moins le cas avec Radioactivity en 1975, centré sur les radiocommunications, et dont le morceau-titre parle du danger du nucléaire. L'album revient à quelque chose de moins pop, plus expérimental, mais a tout de même un grand succès. On note quand même sur ce titre une rythmique très lente et une basse qui répète la même note en fond, qui fait penser au morceau synth-pop des années 80. D'ailleurs, Kraftwerk, finalement, a créé la synth-pop. Par la recherche d'une musique populaire expressément allemande et même européenne, avec Trans Europe Express en 1977 par exemple. Ce sixième album, qui a pour thème un célèbre réseau de trains européens, influencera ironiquement nombre de musiciens outre-Atlantique dans les années 80. Le groupe, malgré une volonté de démarquer leur musique de la pop américaine, s'inspirera quand même régulièrement de musique d'origine anglo-saxonne comme le funk ou le punk rock. Mais au final, celui-ci aura eu en retour une influence inimaginable sur l'ensemble de la musique populaire mondiale, en préfigurant dès les années 70 la synth-pop, la new wave, et bien sûr les musiques de club que sont la house et la techno d'origine américaine. Avec tout le mouvement krautrock, et spécialement Kraftwerk et ses paroles en plusieurs langues, la musique électronique populaire se construit dès le départ comme une musique européenne et mondiale, moins marquée que le rock dans ses racines purement américaines. C'est d'ailleurs au début une alternative au rock. A posteriori, l'électronique mettra d'ailleurs beaucoup de temps à devenir vraiment populaire aux États-Unis, contrairement à des pays européens comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique ou même l'Italie et la France. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve le mois prochain pour se concentrer sur les années 70 et 80. On va parler de synth-pop, de new wave, d'électro, et aussi des premières musiques pour disque jockey, à savoir le dub jamaïcain et la disco. A bientôt sur Radio Campus Tours.